la première. Vous écoutez Nua sur la première.
Et d'ici à 16h, Nua sur la première répond à vos questions. La saison dernière, l'émission sur les ampoules économiques avait suscité beaucoup de réactions, beaucoup de questions d'auditeurs. Pour rappel, ces ampoules économiques, plus économes donc que les vieilles ampoules à incandescence, les ont remplacées sur le marché. Aujourd'hui, un avantage sur le plan environnemental qui pourrait malgré tout avoir ses effets pervers pour notre santé, parce que ces ampoules émettent un champ électromagnétique notamment, et sur l'environnement éventuellement, parce qu'elles contiennent du mercure. Les questions avaient été si nombreuses que nous avions promis de revenir sur le sujet en l'élargissant aux pollutions électromagnétiques, le fameux électrosmog. Vos questions, on les attend.
Nua, vos questions au 02 737 37 27.
Et pour parler de tout ça, je vous présente nos invités, nos spécialistes en plateau. Bonjour Jean Delcoigne.
Bonjour madame.
Jean Delcoigne de Tesla Bell, l'association qui a pour objet la défense et la protection de l'environnement, du cadre de vie, du patrimoine et plus spécifiquement de la santé et de la qualité de la vie des citoyens face aux nuisances potentielles des rayonnements électromagnétiques. J'ai bien tout dit ?
C'est bien cela, oui.
C'est un fameux intitulé, Jean Delcoigne est donc pour Tesla Bell. À côté de vous, il y a Benoît Loupe, expert scientifique indépendant, spécialisé en environnement électromagnétique. Vous aussi, bonjour Monsieur Loupe.
Bonjour.
C'est à l'Université de Liège notamment que vous avez présenté une thèse sur les questions d'environnement et de santé liées aux pollutions électromagnétiques. Alors à l'un comme à l'autre, avant de subir le feu des questions de nos auditeurs qui arrivent via le 02 737 37 27 ou bien qui arrivent via le www.lapremière.be, les pages consacrées à NUA, je voudrais commencer par le début. L'électrosmog, c'est quoi ? C'est un autre mot pour pollution par rayonnement électromagnétique. Qu'est-ce que c'est exactement, ça consiste en quoi, Monsieur Delcoigne ?
Bien, l'électrosmog est de plus en plus important dans la mesure où on fait de plus en plus de choses sans fil. Mm-hmm. Donc on émet dans l'environnement des rayonnements, ce qui n'existait pas il y a 30-40 ans. Il y avait bien la télévision et la radio, mais c'était limité à pratiquement cela. Depuis les années, fin des années 80, début des années 90, il y a les télécommunications sans fil, qui permettent de communiquer n'importe où, n'importe comment. Et on constate que de plus en plus, on veut transmettre de plus en plus d'informations. Et donc, voulant transmettre plus d'informations, on doit monter en fréquence, mm-hmm. ce qui risque d'être plus nocif parce que les fréquences sont plus agressives, sont plus énergétiques. Et on installe partout, non seulement des antennes, mais chez les particuliers, on installe des téléphones sans fil, on installe du Wi-Fi pour transmettre, pour se connecter à Internet sans fil. C'est donc, c'est ce qu'on peut appeler l'électrosmog.
Tesla Bell s'est longtemps positionné pour faire l'écho des citoyens contre l'implantation d'antennes relais, GSM par exemple, ou de pylônes à haute tension. Aujourd'hui, c'est presque contre les centrales Wi-Fi au sein des maisons que vous devriez vous positionner, parce que visiblement, elles contribuent à l'électrosmog.
Je crois que nous devons informer les gens au sujet de ce qu'ils installent chez eux. Et nous ne sommes pas a priori contre les antennes. Nous savons que le GSM est un outil indispensable pour un certain nombre de professions et un certain nombre de situations. Ceci dit, ce que nous voulons, c'est que l'exposition des gens soit ramenée suffisamment bas pour que leur santé soit protégée.
Ouais. Alors c'est vrai que c'est pas facile à aborder hein, toutes ces questions-là. Benoît Loupe, nos sens ne peuvent pas clairement percevoir cet électrosmog. On le voit pas, on le touche pas. Simplement, on en perçoit les conséquences. C'est ça ?
Oui, c'est dans les effets. Plus précisément, donc à travers à la fois les témoignages qui ressortent de patients, de médecins qui témoignent certaines formes d'allergies électrosensibles ou en tous les cas une aggravation de leurs symptômes, de pathologies nerveuses existantes, mais surtout et avant tout des problèmes de confort de vie, des problèmes de récupération du sommeil, des problèmes de stress accru qui ne peuvent pas s'expliquer de manière, je dirais, habituelle par uniquement le cours de l'existence ou le stress que l'on peut vivre dans le cadre professionnel et qui font que les gens n'arrivent pas à se recharger dans leur habitation. Donc ces agressions doivent être étudiées sur le plan biologique. Une installation électrique, les appareils qui nous entourent ne sont aujourd'hui pas rendus biocompatibles sur le marché. On parle beaucoup d'aspects techniques, éviter les effets donc des perturbations pour que les appareils puissent fonctionner correctement sur le plan de l'immunité électronique. Ce sont des termes qui font partie donc de la compatibilité compatibilité électromagnétique pour rendre les choses compatibles entre elles, pour ne pas qu'elles se perturbent entre elles, mais le fait qu'elles perturbent un être vivant n'est absolument pas pris en considération.
Mmh, cela dit, c'est vrai, hein, les scientifiques ne sont pas d'accord sur les conséquences de ces ondes électromagnétiques. La nocivité des rayonnements intenses, ça, elle est prouvée, mais les avis divergent sur des émissions de faible intensité. Il y a des normes qui sont prévues quand même.
On a quand même de nombreuses études, notamment le dernier rapport Bioinitiative, qui précise de manière très claire, à faible niveau d'exposition, toute une série de pathologies qui peuvent exister. Il y a quand même plus de 1500 études qui ont été analysées et triées parmi des études scandinaves, américaines, des pays de l'Est qui sont très très importantes et pour lesquelles on parle même d'effets génotoxiques, donc de perturbations possibles au niveau de l'ADN. Donc il est quand même temps, aujourd'hui, même à des niveaux de faible exposition, de permettre à tout un chacun, s'il le souhaite, en toute liberté, de s'en prémunir.
D'être informé en tous les cas. Une dernière chose avant de passer à une question qui nous est arrivée par répondeur via le 02 737 37 27. On parle ici de conséquences sur la santé, des conséquences sur l'environnement, au sens strict, hein, la nature, les animaux. Il y en a aussi de cet électrosmog ?
Je pense qu'il y a des conséquences sur les animaux. Il y a eu des conséquences, par exemple, pour les lignes haute tension qui passaient au-dessus de fermes, ça remonte dans les années 80. Et il y a eu des expériences faites aussi d'influence des rayonnements à haute fréquence sur des plantes. Donc oui, effectivement, mais disons que les rayonnements ont une influence sur tout ce qui est biologique.
Sur tout ce qui est vivant. Benoît Loupe.
Oui, en effet. Donc, par nature, nous sommes des terriens, nous vivons sur la Terre, nous vivons dans le champ magnétique naturel de la Terre, mais qui est un champ continu, qui est constant, qui n'a absolument rien à voir avec le champ alternatif ou pulsé des appareils et des transformateurs d'alimentation des appareils qui nous entourent. Et donc, clairement, que ce soit des micro-ondes pulsées, que ce soit des radiofréquences dégagées par les transformateurs électroniques des lampes au compact, on peut se poser la question de savoir si effectivement elles ne viennent pas contrarier un certain nombre de mécanismes cellulaires et si finalement le corps arrive à compenser les effets associés de toutes ces soupes d'ondes quotidiennes que l'on subit. On est très très bien conçu, on a une homéostasie, on arrive à compenser pas mal de choses, mais nous fonctionnons aussi de manière bioélectrique dans notre corps et ces fréquences ne sont pas du tout les mêmes.
Eh bien précisément, 02 737 37 27, le numéro de téléphone est à votre disposition, www.lapremière.be, page consacrée à Nua, toutes vos questions liées à cette pollution électromagnétique. Par exemple, cet ostéopathe qui nous avait laissé un message sur les manifestations parfois un peu étonnantes.
Oui, mon nom est Serge-Anne Bogard, je suis ostéopathe. Je voudrais juste dire ceci, c'est qu'en 5 ou 6 ans, j'ai pu aider de très nombreuses personnes et de très nombreuses familles à retrouver un petit peu de bien-être et de calme et de paix à l'intérieur des murs de leur maison, simplement en leur recommandant de supprimer tout simplement leur téléphone sans fil ou leur babyphone ou leur wifi. Je peux vous raconter ainsi deux histoires exemplatives. C'est une maman qui est venue me voir parce qu'elle souffrait de terribles maux à la nuque et à la base de l'occiput, avec également des radiations dans les épaules et dans le haut du dos. Et après 2 ou 3 traitements, donc les symptômes restaient exactement les mêmes. Et puis elle parlait de ses enfants qui étaient particulièrement surexcités. Et progressivement, j'en suis venu à lui demander si elle n'avait pas un téléphone sans fil. Alors, elle m'a directement dit que, effectivement, il y avait un téléphone sans fil et la base de ce téléphone sans fil se trouvait tout simplement au centre de la cuisine et que toute la famille se retrouve en permanence au centre de la cuisine. Donc, j'ai recommandé à cette dame tout simplement de couper son téléphone. Et elle m'a téléphoné une semaine après me disant que ses problèmes de douleur à la nuque et à la base de l'occiput avaient disparu et qu'elle avait le sentiment également que ses enfants étaient plus calmes et se disputaient moins souvent.
Voilà, c'est un témoignage qui nous était parvenu au 02 737 37 27, toujours accessible aussi pour les questions en direct. On aurait pu continuer hein, parce qu'il donnait un autre témoignage aussi, ce même ostéopathe, en parlant d'un bébé qui avait toujours bien dormi et puis qui, à partir du moment où un babyphone avait fait l'irruption dans sa chambre, s'était mis à mal dormir. Je vais me faire l'avocat du diable, mais ça a l'air tellement simple pour être réellement des vrais problèmes, des vraies solutions. Est-ce que c'est réel ?
Oui, c'est certainement réel. Et je dirais qu'avec un bébé, il n'y a pas l'effet psychologique.
Oui.
L'effet psychologique peut être présent parfois chez les adultes. tout en constatant que les effets sont quand même réels. Et donc, je pense qu'il est temps de faire attention, notamment avec le babyphone qu'on installe à côté des berceaux.
Mais qu'est-ce qui se passe avec ces appareils-là, Benoît Loupe ?
En fait, vous avez une station de base au centre de la maison qui est finalement l'équivalent à l'échelle de la maison d'une antenne de téléphonie mobile. Ce sont des micro-ondes pulsées. Elles se répètent 100 fois par seconde, c'est du 100 Hz, mais ce sont des bouffées de 1890 à 1900 millions de Hz par seconde qui se répètent 100 fois. C'est une modulation particulière et il semblerait que les gens le ressentent tellement fort que finalement, au niveau de leur symptomatologie, donc par rapport à des pathologies dormantes ou existantes, elles sont renforcées. Mais effectivement, les enfants sont beaucoup plus nerveux ou n'arrivent pas, au contraire, à se réveiller le matin. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, j'ai acquis une expérience sur le terrain d'à peu près 15 années. J'ai eu l'occasion d'analyser à peu près 4000 habitations avec des médecins qui constatent également qu'après suppression des téléphones sans fil et en les remplaçant par des téléphones fixes ou des variétés de téléphones à faible rayonnement, ces symptômes disparaissaient quasi systématiquement. Donc, il semblerait, de manière claire pour moi, sans devoir chercher une ultime étude qui tenterait à prouver encore ce que nous voyons sur le terrain, mais il faudrait vraiment maintenant que des professionnels de la santé, des politiques qui décident des normes, se mettent aussi autour d'une table avec nous et décident de choses par rapport à l'exposition chronique de la population. C'est très, très important.
Monsieur Delcoigne, c'est vrai que Cites Labelle s'était positionné beaucoup sur les normes, précisément concernant les antennes GSM, les pylônes à haute tension. C'est vrai que tout cet équipement quotidien, ménager, les centrales téléphoniques que l'on vient d'évoquer, les babyphones, tout ça, ça ne fait pas partie encore d'une réflexion et de normes imposées ?
Non, pas suffisamment. Et je pense que le gouvernement fédéral devrait prendre en compte les normes de produits. Là, c'est une compétence fédérale, contrairement au rayonnement des antennes où c'est devenu une compétence régionale. Mais pour les normes de produits, c'est une compétence fédérale. Il faudrait édicter des normes et de manière à avoir l'application d'un principe de précaution et le moindre rayonnement. Maintenant, ceci dit, tout le monde est différemment sensible, donc certains ressentent très, très vite, et d'autres ressentent à tous les niveaux. Il y en a qui sont excessivement électrosensibles, et je me pose parfois la question de savoir où un jour ils vont pouvoir continuer à vivre.
Cela dit, qu'est-ce qui fait de nous des êtres électrosensibles, plus ou moins, oui ou non ?
Alors, il semblerait, selon notamment les études menées par Olle Johansson, donc à l'Institut Karolinska en Suède, qui est un institut extrêmement réputé, qui est un spécialiste de l'électrosensibilité, qu'il y ait des mécanismes au niveau de récepteurs histaminiques, on ne va pas trop rentrer dans les détails, et donc, en fait, les mécanismes qui sont sous-jacents aux réactions allergéniques au niveau cellulaire, et il semblerait que à la fois des neurotransmetteurs seraient perturbés et que la cause serait d'origine chimique. Donc l'électrosensibilité serait une forme avancée et particulière au départ de la chimicosensibilité. Donc la présence de mercure, on va évidemment relancer encore un débat dans les ampoules fluocompactes, dans les amalgames dentaires, dans les métaux lourds qui sont présents dans notre environnement, ceux qu'on avale, les pesticides notamment et ce genre de choses, tous ces bons produits, tout ce cocktail de toxiques, finalement, qu'on retrouve dans notre assiette et donc dans notre corps, qui sont bio-accumulables, auraient tendance à favoriser justement des allergies croisées, à la fois à d'autres phénomènes, à d'autres expositions d'allergènes, par exemple acariens, pollen, graminées, et donc d'arriver à terme à des électrosensibilités qui se réveillent et qui se potentialisent dans l'exposition chronique aux champs électromagnétiques. Et donc ces gens ne sont pas au départ, ils ne naissent pas électrosensibles, ils le deviennent.
Alors ben voilà, Nathalie qui prend vos réflexions par téléphone au 02 737 37 27 m'envoie ce mail, elle se fait le porte-voix de Roger de Namur qui avait une série de réflexions. 1. Les lampes économiques, il paraît que l'on ne peut pas les ouvrir, oui ou non ?
Alors là, très clairement, il ne faut pas les ouvrir.
Faut pas les ouvrir.
D'abord, il faut savoir que au moment où l'on casse une ampoule économique, on a entre 2000 et 5000 mg de mercure qui se répand par mètre cube dans l'air, ce qui n'est pas rien. Alors qu'on sait que, par exemple, au niveau de l'exposition en Europe, on conseille de ne pas de limiter l'exposition à 1 microgramme par litre dans l'eau. Et l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis demande de ne pas dépasser 1 microgramme par mètre cube dans l'air. Ça veut dire que là, en cassant une ampoule, on va en avoir entre 2000 et 5000 donc microgrammes. J'ai peut-être commis une erreur en disant milligrammes tout à l'heure, c'est bien microgrammes. Et donc, en effet, l'exposition, là, est très importante. Alors, les gens ne sont pas du tout prêts, ils ne prennent pas conscience. Le mercure peut rester des années perdu dans le sol. Si ça tombe sur une moquette, ça a des conséquences qui sont relativement graves. Il y a des vapeurs. Mais au-delà de ça, j'ai envie de vous dire aussi, il n'y a pas que de casser l'ampoule. Il semble que le spectre du mercure soit présent dans le spectre de la lumière, parce que tout simplement, c'est de la spectroscopie. On connaît que depuis très longtemps, depuis les études qui ont été menées par Bunsen au début du 19e, à la fin du 19e siècle, et également par Kirchhoff, que chaque métaux a un spectre bien précis qui se révèle à une certaine température. Et notamment dans les lampes fluocompactes, le spectre du mercure, qui est particulièrement intense dans la lumière bleue, autour de 436 nanomètres, donc c'est hyper précis, comme longueur d'onde, eh bien, passe dans l'œil. Et cette fréquence avec la lumière bleue qui passe dans l'œil a un effet direct sur le fond de l'œil, la rétine, qui est une zone importante, qui est la macula. Et maintenant, des suspicions ont été publiées en 2006 dans des revues d'ophtalmologie par des professeurs très réputés, notamment dans des études scandinaves, les études d'Alkver et des études également en irlandaise du professeur John Nolan, par rapport aux dégénérescences maculaires liées à l'âge qui pourraient arriver de manière beaucoup plus prématurée qu'à l'âge de 50 ou 65 ans.
Décidément, ces ampoules économiques, on va finir par s'en méfier plus que de raison. Qu'en est-il de ce rayonnement électromagnétique qui les entoure ? C'est aussi une question qui nous arrive, est-ce qu'il faut s'en méfier et est-ce que finalement le bénéfice environnemental qu'elles génèrent n'est pas tout à fait contrarié et annulé par les dégâts qu'elles occasionnent tant sur le plan du mercure que sur le plan électromagnétique ?
Alors, une ampoule à filament produit un éco-bilan environnemental qui est plutôt favorable. Par contre, une ampoule fluocompacte, donc qu'on comprenne bien, ampoule fluocompacte, c'est-à-dire un petit néon, un petit tube TL, qui contient un revêtement fluorescent à l'intérieur, qui est en général du phosphore d'ailleurs, différents gaz rares, inertes, qui peuvent être du krypton, du néon, différents gaz, et notamment un système de transformateur en dessous qui va créer, parce qu'il y a des gouttelettes de mercure également à l'intérieur, qui vont en chauffant, si vous voulez créer des vapeurs de mercure et qui, en contact avec ce phosphore, vont s'illuminer, produire de l'ultraviolet et notamment une lumière assez blanche. Et donc, on se retrouve là avec un système qui crée, si vous voulez, une élévation de tension autour d'un transformateur. Le transfo n'est pas blindé. Donc, il rayonne à la fois deux catégories de fréquences qui, en Suède, d'ailleurs, ont été normalisées. C'est la bande 1 de 5 Hz à 2000 Hz et la bande 2 de 2000 à 400 000 Hz. Ces deux bandes dites d'extrêmement basse fréquence et de basse fréquence, la première bande est émise aussi, donc le 50 Hz, ben une ampoule à filament, une ancienne ampoule à filament ou une ampoule halogène à filament qu'on trouve encore sur le marché, émettent tous les deux un champ 50 Hz à proximité de l'ampoule. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est la deuxième bande. C'est la bande qui apparaît à partir de 2000 Hz, je dirais autour de 40 000 Hz aussi, qui émet donc ce qu'on appelle déjà des radiofréquences, où c'est une partie haute des basses fréquences, et qui, elle, pose des problèmes, parfois jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, et ce qu'on a mesuré, nous, avec des appareils étalonnés, qui sont précis dans cette bande de fréquence, c'est que le champ électrique et le champ magnétique dépassaient les normes de précaution suédoises. Alors, c'est toujours embêtant, et ces normes de précaution, les fameuses normes TCO, sont prises en exemple aujourd'hui dans le monde entier. Mais on n'a pas de normes pour l'émission de nos lampes économiques.
Alors, on ne va pas faire paniquer tout le monde non plus. Hein. Il y a des mesures simples et concrètes à prendre chez soi.
Respecter des distances de sécurité. Voilà, alors déjà, directement, ne pas se coller la tête à la lampe fluocompacte qui est mise peut-être dans le socket à la lampe de bureau. Peut-être ne pas allumer ce genre de lampe comme lampe de chevet. Et peut-être préférer quand même des lampes halogènes à faible consommation d'énergie, qui certes ne donnent pas 70 à 80% de consommation d'énergie, mais déjà 20 à 30%. Et qui rayonne un spectre qui est un spectre continu comme celui du soleil, qui n'est pas un spectre discontinu. En plus, dans la couleur des lampes fluocompactes, le spectre est discontinu.
Je dis ça parce que, voilà, je ne voudrais pas non plus qu'on fasse paniquer tout le monde quand même. Hein, on ne va pas se réfugier dans un bunker écologique. Et je dis ça en réaction à un mail que nous envoie Olivier Nizin. On y revient à tous ces aspects environnementaux et santé liés aux ondes électromagnétiques. Mais il y a aussi la vie sur les routes.
Vous écoutez Nua sur la première.
Enua met à votre disposition deux spécialistes aujourd'hui. Benoît Loupe, expert scientifique indépendant en environnement électromagnétique, et Jean Delcoigne de Tesla Bell, association qui a pour objet, donc, on le disait tout à l'heure, défense et protection de l'environnement, plus spécifiquement en ce qui concerne les rayonnements électromagnétiques aussi avec vous, Jean Delcoigne, c'est de ce dont on parle aujourd'hui. Alors, avant de revenir aux aspects pratiques, faut-il débrancher le Wi-Fi ou pas? Ce sont des tas de questions qui nous arrivent. Je voudrais quand même relayer ce que Olivier nous envoie via le www.lapremière.be. Est-il enfin possible qu'on arrête de faire peur aux gens par toutes ces sortes de choses? À écouter la radio toute la journée, un jour je vais me réfugier dans un bunker écologique et ne plus bouger jusqu'à ma mort. Je vais pas lire tout son mail qui est assez long. Visiblement, c'est quelqu'un qui est sceptique par rapport à tout ce que nous évoquons et peut-être rendu aussi un peu démuni par le fait qu'il se sent sans action possible par rapport à tout ce qu'on évoque. Jean Delcoigne, qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre?
Alors, il y en a plusieurs qui sont sceptiques, mais il faut quand même bien constater qu'il y a des expériences, il y a des études scientifiques, et donc, en fonction de cela, il n'y a pas la preuve absolue, comme on dit souvent, mais il y a quand même des mesures à prendre. Et donc, c'est évident qu'il ne faut pas se réfugier dans un bunker, et il ne faut pas aller contre le progrès. Mais quand le progrès va un peu trop loin et ne prend pas en compte les nuisances potentielles pour la santé, eh bien, il faut dire halt. Il est temps d'examiner des mesures qu'il faudrait prendre pour que cette santé soit protégée, pour que la qualité de vie soit protégée. Mm-hmm. Alors, comme je l'ai dit, tout le monde est différemment sensible. Ce monsieur n'est sans doute pas sensible. Il pourrait peut-être le devenir, je ne sais pas.
José, par mail, qui nous écrivait aussi, prenez garde de ne pas alimenter des craintes dont jouent déjà certains commerciaux. J'ai vu, par exemple, qu'une société avait commercialisé, sous couvert de reconnaissance scientifique, des draps et matelas permettant de lutter contre l'électrosmog. Madame Salé nous envoie aussi un mail dans ce sens en disant qu'il ne faut pas mélanger discours scientifique et production d'éléments vendus qui permettent de lutter contre tout ça. Il faut se méfier, dit-on. On ne doit pas confondre lutter contre l'électrosmog, nous dit-on, et contre l'électro-gogo. Que répondre à ces personnes, Benoît Loupe?
Alors, c'est très simple. Ce sont des personnes qui, visiblement, préfèrent pratiquer la politique de l'autruche. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis dans une situation où je constate sur le terrain des choses. On règle des problèmes depuis maintenant des années, vraiment de manière concrète, au domicile des personnes, à la fois même préventivement, lors d'analyses de terrain à bâtir avant de construire, pour par exemple aussi, dans un deuxième temps, réaliser des installations électriques en câble blindé, sans rayonnement, parce que notamment les maisons en bois, à cause des fibres du bois, diffusent plus facilement les champs électriques de la tension des câbles. Donc il existe des tas de technologies innovantes. On a maintenant des éclairages blindés avec prise de terre. Pourquoi aller systématiquement aller chercher l'éclairage le plus rayonnant, alors que tout simplement, par principe de précaution, on peut éviter. On peut choisir une lampe avec une structure métallique qui est reliée à la terre. On peut changer un interrupteur par un interrupteur bipolaire. Alors ces fameux draps, ces fameux couvertures, etc. Bien sûr, il y a des escroqueries sur le marché. Et c'est très difficile pour le consommateur aujourd'hui de faire la part des choses. Mais il y a des technologies de l'armée de la défense qui sont passées aujourd'hui dans des tissus qui sont composés comme une espèce de structure de cage de Faraday. Je vous garantis qu'avec un appareil de mesure, ces tissus, ces technologies ont fait l'objet d'analyses en laboratoire menées par des instituts réputés en la matière, qui sont des instituts allemands indépendants, des forces armées allemandes qui ont travaillé sur l'atténuation des fréquences grâce à ces voiles qu'on peut utiliser comme rideaux, comme baldaquins, pour des gens qui ne savent pas déménager, mais et qui sont sensibles à ces fréquences. Mais c'est extraordinaire, ces technologies.
Par téléphone, nous avons Cathy, parce qu'avant de penser à gérer ces ondes, il s'agirait peut-être de les mesurer. Bonjour Cathy.
Oui, bonjour.
Vous aviez une question à ce propos-là?
Oui, donc je voulais savoir si on peut se procurer dans le commerce un appareil pour mesurer le rayonnement à domicile.
Voilà. Est-ce qu'il existe des appareils de mesure pour la maison?
Bien entendu. Maintenant, je ne veux pas citer de marque.
Bien entendu,
ça c'est
aussi.
Certain aussi. Mais il y a, pour peu que vous cherchiez correctement sur Internet, vous allez trouver des tas d'appareils de mesure en basse fréquence et en haute fréquence. Maintenant, la majorité de ces appareils sont d'origine allemande, voire suédoise, mais plutôt allemande. Il faut savoir que maintenant, il existe dans le domaine public la possibilité de contrôler soi-même et de surveiller soi-même son environnement. Tout simplement parce qu'on peut augmenter la puissance d'une antenne de téléphonie mobile, tout simplement simplement parce qu'un voisin peut utiliser une technologie sans fil et vous, vous avez choisi de ne pas en avoir, c'est votre choix. Donc vous pouvez surveiller. Et ces appareils maintenant sont à faible coût. Donc réellement, on peut, en voulant être responsable de sa santé ou la santé de son habitat et se prémunir d'un certain nombre de choses et surveiller son environnement. C'est pas du tout sombrer dans la paranoïa, c'est simplement éviter donc de s'exposer inutilement à des facteurs de nuisance pour lesquels on estime que c'est nécessaire.
Une dame ici, je ne retrouve plus son mail, mais qui nous demandait est-ce qu'il est utile de couper la nuit, par exemple, les stations Wi-Fi ou les bornes téléphoniques qu'on aurait à la maison. Jean Delcoigne, tirer la prise, ça suffit ?
Ah, je pense que oui, ça suffit. Je dirais que pour la nuit, il faut avoir le moins d'équipement possible à proximité de son lit, y compris des lampes de chevet. Même quand elle est éteinte, il peut y avoir un champ électrique relativement important.
Même quand elle est éteinte ?
Même quand elle est éteinte.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors ?
Disons que l'interrupteur de toute lampe, pratiquement l'interrupteur, ne coupe qu'un seul fil. Et le fait qu'il ne coupe qu'un seul fil, il reste une tension électrique qui génère un champ électrique.
Il suffit de la reculer un peu plus loin ?
Il suffit de la reculer un peu plus loin, bien souvent, oui. Comme un radio réveil, il suffit de le reculer peut-être un peu plus loin
et
aussi.
Quand on dit plus loin, c'est combien, concrètement parlant ? C'est à quelle distance de notre T d'oreiller ?
Ah, peut-être entre 50 cm et 1 mètre.
Ça dépend du modèle. Ça dépend. Mais tout simplement, remplacer l'interrupteur par un petit interrupteur à 4 ou 5 euros bipolaire. Qui coupe les deux fils, parce qu'on a des réseaux à deux phases ou des réseaux avec phase plus neutre. Ça dépend vraiment. Mais globalement, il faut essayer toujours de couper en bipolaire. Ça ne coûte pas cher. Ça permet de faire passer la partie du fil qui, elle, n'est pas coupée, qui reste sous tension. Et qui rayonne donc derrière la table de nuit, et la partie qui est coupée, donc côté lampe, côté tête de lit, de ne pas rayonner. Donc c'est vraiment très simple. Ça coûte pas cher de se protéger en fait en s'informant contre les champs électromagnétiques. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est quand ils viennent de l'extérieur et qu'ils envahissent l'espace intérieur de la maison.
Justement, à propos de cet envahissement intérieur de la maison, juste une question ici encore qui nous arrive en disant qu'il existe en France l'occasion de demander officiellement que les enfants ne soient pas exposés au rayonnement UV. Cette dame nous demande est-ce qu'il existe l'équivalent en Belgique et cela dit, est-ce que c'est pas utopiste de se dire qu'on peut légalement demander à ne pas être exposé à un système Wi-Fi ? Comment peut-on réellement se priver de ce genre de choses sans vivre, sans s'isoler socialement ? Vous avez entendu parler l'un ou l'autre, Jean Delcoigne ou Benoît Loup, de telle démarche française ?
Il y aurait intérêt à remplacer le Wi-Fi par des solutions câblées, notamment en utilisant la fibre optique. Et au point de vue capacité, la fibre optique est plus capacitaire que la transmission sans fil et surtout beaucoup plus sécurisée. Et alors si on veut éviter de se trouver dans une atmosphère électromagnétique, eh bien il faut essayer de remplacer ces solutions Wi-Fi par des solutions câblées.
Mmh. Un autre monsieur qui par téléphone tout à l'heure nous demandait aussi si ces rayonnements électromagnétiques pouvaient avoir des conséquences sur la mémoire, rapidement, parce que l'émission se termine.
Bon, mais là, il y a eu des études qui ont été menées notamment par le professeur Van der Voorst et une publication et une thèse du professeur Dirk Adam aussi sur l'immunité de rats exposés à des champs électromagnétiques. Mais aussi sur la perturbation de la mémoire à court terme. Donc ça s'est fait à l'université catholique de Louvain, ici en Belgique. Et donc on l'a observé, mais les études menées bien avant par Roger Santini de l'Institut National des Sciences Appliquées, avec lequel j'ai longtemps collaboré.
Je dois vous interrompre, monsieur Lange, parce qu'on va y terminer. Hein. Dans quelques 5 minutes, nous avons la pub. Toutes les informations seront reprises sur le site de Nuit sur la première. Merci d'avoir été là.